Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Bonjour à tous, et tout d'abord à Rochefort, deux jeunes hommes surpris en train de lancer des colis à la maison d'arrêt. Dans la soirée de dimanche vers 22h, les policiers de la BAC de nuit ont interpellé deux individus de 18 et 19 ans alors qu'ils tentaient de lancer des colis depuis un immeuble de la rue Chanzy. Dans les colis, pas de portable mais 50 grammes de cannabis et des piles. Les deux individus ont été placés en garde à vue puis remis en liberté après avoir reconnu les faits. Ils font l'objet d'une procédure de reconnaissance de culpabilité et seront jugés le 26 février prochain. Attention, alerte baïne en cours dans le département. Le risque est de 4 sur 5 et il concerne en particulier les plages de Grand Village, Saint-Georges-d'Oléron, Saint-Trojan, La Tremblade et les Mattes. Les baïnes, ce sont ces courants marins qui vous attirent vers le large. L'alerte est en vigueur également demain. Attention aux physalies à Royan. La ville lance un message de prudence en ce qui concerne les petites méduses qui ont été observées lundi sur les plages de Pontaillac, Le Chay et Foncillon. Des méduses bleutées avec des tentacules qui peuvent être très urticantes. Il est conseillé de ne surtout pas les toucher. Toujours à Royan, les liaisons en bac entre le Verdon et Royan interrompues depuis ce matin et jusqu'à cet après-midi suite à un problème technique. Prochain départ assuré à 17h45 tout à l'heure depuis Royan et 18h30 du Verdon. Force ouvrière Charente-Maritime sur le pont. Le syndicat va mobiliser ses troupes demain à l'occasion de l'appel national de l'intersyndicale. Autour de ce slogan, les sacrifices pour le monde du travail, ça suffit. Pas moins de 5 rassemblements sont organisés dans le département à Rochefort, Sainte, Saint-Jean-d'Angély, Jonzac et La Rochelle. Les sujets de mécontentement sont particulièrement nombreux. La réforme des retraites, le budget entre autres. Catherine Savolon, secrétaire générale de l'Union départementale FO, évoque en particulier la baisse du pouvoir d'achat qui impacte les salariés et toutes les couches de la population.
La priorité, bien évidemment, c'est l'augmentation des salaires, des pensions et des minima sociaux et la conditionnalité des aides publiques. On le voit bien, le quoi qu'il en coûte aujourd'hui fait porter cette responsabilité aux travailleurs et aux travailleuses et pèse lourdement sur leur pouvoir d'achat. Et c'est quelque chose qui est insupportable pour les Français. Et il nous faut absolument retrouver un équilibre à la fois une justice sociale et fiscale quand on voit qu'il y a des milliardaires qui engrangent de plus en plus de dividendes et qu'on demande de faire porter les efforts au peuple. Quand vous avez un salarié qui vous dit qu'il mange qu'un repas par jour, c'est compliqué parce que on se dit qu'il préfère en avoir moins dans son assiette pour pouvoir aller travailler et prendre sa voiture. Et ça, on ne devrait pas avoir à arbitrer entre ce qu'on mange et pouvoir aller travailler.
Autre raison de la colère sociale, le doublement des franchises médicales. Une atteinte de plus au modèle de la sécurité sociale pour Catherine Savolon.
Alors, il est largement menacé, puisque là, ce gouvernement est précédent comme actuel et on aimerait agir sur le gouvernement futur, prévoit le doublement des franchises médicales, les prises en charge de transport sanitaire. On n'est pas le gel des salaires, le gel des pensions. La sécurité sociale en général, c'est les droits de la famille, la maladie, la retraite. Sur tous ces pans-là que le gouvernement veut faire des économies sur le dos des gens qui cotisent et dont le régime a été fait pour qu'ils puissent en bénéficier à un moment de leur vie. C'est-à-dire que au départ, ils en bénéficient au niveau de la CAF pour leurs enfants. Quand ils sont malades, eh bien, c'est la caisse primaire. Et quand ils arrivent à la retraite, c'est la CARSAT. Et ce sont tous ces droits-là dont le gouvernement veut faire des économies.
5 rassemblements donc en Charente-Maritime. Jeudi matin, donc demain à 10h au Jardin public de Jonzac, 10h30 place Colbert à Rochefort, devant le palais de justice de Sainte et la mairie de Saint-Jean-d'Angély. Puis demain après-midi à 14h30 sur le parvis de la gare SNCF de La Rochelle. Une rentrée en Berne pour les chefs d'entreprise du département. Ils se sont retrouvés lundi soir à la cité entrepreneuriale de Sainte à l'invitation du comité interconsulaire de la Charente-Maritime. Il regroupe les chambres de métiers, de commerce et d'industrie et d'agriculture. L'occasion pour la présidente Sylvie Martin de présenter la situation de l'économie en Charente-Maritime. Et comme redouté, elle n'est pas au mieux de sa forme. La faute en particulier aux incertitudes sur le plan politique qui refroidissent les entrepreneurs. Sylvie Martin.
Actuellement, vu le contexte d'instabilité politique Il y a toujours des tensions sur les trésoreries, des carnets de commandes qui sont en baisse. Et puis, face à l'incertitude, bah, les consommateurs sont aussi dans l'attentisme, avec dans le bâtiment des aides, par exemple la prime rénov qui est fluctuante, tantôt ça fonctionne, tantôt ça fonctionne pas, enfin voilà. Donc c'est vrai que la conjoncture n'est pas trop favorable. Les artisans sont résilients depuis la crise de Covid, on a subi un certain nombre de crises, ils ont été résilients. C'est vrai qu'aujourd'hui on voit un certain nombre de défaillances d'entreprises. Alors, défaillance pour raison économique ou défaillance parce qu'il y a un ras-le-bol. Aujourd'hui, on a une entreprise en France qui ferme toutes les 8 minutes. C'est quand même vous dire. Mais néanmoins, on a toujours des porteurs de projets qui ont foi en l'entrepreneuriat et qui s'installent, comme boulanger, comme pâtissier. Enfin voilà, il y a encore des créateurs de projets.
Des chefs d'entreprise qui affrontent une succession de crises depuis le début des années 2020, Sylvie Martin demande au Premier ministre de prendre ses responsabilités.
Pour faire tourner nos boîtes, bah, on prend des décisions, on se relève les manches. Les artisans, on est dans la proximité, dans la transmission des savoir-faire avec l'apprentissage. Il faut vraiment que le gouvernement prenne ses responsabilités et qu'on stabilise les choses, parce que là, on ne sait pas ce que va donner la loi de finances. Donc, pour l'économie, nous avons besoin de stabilité, que les consommateurs aient confiance en l'avenir, de manière à consommer. Il faut vraiment qu'on retrouve une certaine confiance. Confiance dans nos institutions, et puis ça le fera. Mais là, on a subi trop de crises successives depuis le Covid, post-Covid, l'inflation, les matières premières, enfin voilà. Les artisans, les difficultés de recrutement, je vous en parle pas parce que c'est toujours la première chose qui vient hein, dans les discours des artisans. On a du mal à recruter, on a du mal à fidéliser nos salariés. Donc voilà, on a besoin d'une stabilité pour avoir confiance en l'avenir.
Une rentrée économique sous le signe de l'intelligence artificielle avec une conférence sur le sujet organisée lundi dernier. N'ayez pas peur, ça facilite les tâches administratives et rébarbatives, mais ça ne remplace pas les contacts humains, souligne Sylvie Martin. Dans la zone commerciale de Royan 2, les travaux de la rue Lavoisier vont commencer. La communauté d'agglomération Royan Atlantique va lancer le calibrage de la rue avec une chaussée réduite, un trottoir arboré et la création d'une piste cyclable de l'autre côté de la route. Une première tranche de travaux se déroulera du 29 septembre au 1er décembre. Une réunion d'information était organisée ce matin. On se retrouve dans un instant, midi 13 sur Demoiselle.
Demoiselle Midi, l'info d'ici, Emmanuel Bidot.
Rompre avec l'isolement et partager de bons moments, c'est l'objectif du dispositif Mona Lisa à l'honneur hier dans le cadre d'une journée dédiée aux bénévoles du réseau insulaire organisée à la citadelle du château d'Oléron. Une journée avec la participation du délégué général de Mona Lisa France, Boris Kallen. Reportage d'Adrien Viven.
Mona Lisa, c'est l'acronyme de Mobilisation Nationale contre l'isolement social des âgés, un réseau créé en janvier 2014 qui fonctionne très bien selon Boris Kallen, mais il le souligne, il y a toujours beaucoup de solitude et il ne faut pas s'arrêter là où on en est.
Aujourd'hui, il y a 530 000 personnes en France qui sont en situation de mort sociale. Donc la mort sociale, c'est qu'ils n'ont plus aucune visite de personne, ni la famille, ni les amis, ni le voisinage. Ils participent plus à la vie de la cité. Donc on est vraiment sur un enjeu là de société, sachant que l'impact de la solitude sur la santé des gens, c'est une augmentation de plus 30% du risque de surmortalité lié à la solitude durable, ce qui équivaut à fumer 15 cigarettes par jour. Donc ça a un impact en fait sur la santé des gens qui est extrêmement importante et qui vient d'être reconnue au niveau mondial par l'OMS. C'est-à-dire qu'on parlait de chômage de masse avant, mais on peut parler maintenant de pauvreté relationnelle de masse également. Quand on a 11 millions de Français qui disent souffrir de solitude, on est quand même dans une situation où on a un questionnement sur les relations qu'on entretient en France les uns avec les autres, vu qu'à tous les âges de la vie, les personnes disent qu'elles ont des difficultés à rentrer en relation de qualité.
Mona Lisa Oléron a été lancée il y a 10 ans avec un temps d'arrêt lié au Covid. Le réseau insulaire compte désormais 4 équipes citoyennes, une vingtaine de jeunes retraités qui donnent de leur temps pour échanger, dialoguer et organiser des sorties. Les précisions d'Isabelle Jacques, coordinatrice du contrat local de santé de l'île d'Oléron.
Il y a effectivement à la base la visite à domicile de la personne isolée. Le but étant effectivement qu'elle fasse rentrer des personnes chez elle, qu'elle reprenne de la confiance. confiance et puis elles sortent également. On a des communes qui vont chercher les personnes âgées chez elles pour les faire participer à des ateliers ou à des sorties, voilà. Et donc il y a les deux qui fonctionnent, l'extérieur et la visite. Mais c'est vrai que le travail de visite à domicile pour créer ce lien, à nouveau cette confiance, pour se réouvrir éventuellement aux autres, puisque c'est des personnes qui, dans leur isolement, ont quand même fait le vide aussi autour d'elles.
Le réseau national Mona Lisa est très étoffé. L'objectif aujourd'hui pour Boris Kallen est d'attirer encore plus de bénévoles.
C'est d'engager l'ensemble des citoyens français. Pour Mona Lisa France, c'est l'enjeu de demain. C'est-à-dire qu'on a engagé plus de 600 organisations dans la démarche Mona Lisa France. Donc on est très connu au niveau des professionnels. Maintenant, on aimerait en fait que tous les Français sachent qu'il y a un enjeu de société qui est lié à la question de la solitude et qu'ils s'engagent auprès de chez eux quotidiennement pour Mona Lisa dans l'avenir.
Alors si vous souhaitez rejoindre les équipes de bénévoles de Mona Lisa, renseignez-vous auprès de votre mairie ou votre centre communal d'action sociale.
Adrien Vivenne, Loti à l'honneur pour les journées du patrimoine à Rochefort. Le programme était révélé hier lors d'une conférence de presse pour la 42e journée européenne du patrimoine de la municipalité à Mille Paquets sur Pierre Loti. Il est le fil rouge du programme. Le public est invité à visiter les lieux de vie de l'académicien Caroline Campodarve Puente, première adjointe en charge des affaires culturelles.
On a décidé de proposer à tous ceux qui le souhaitent, bien sûr, de retrouver la maison Pierre Loti qui sera ouverte gratuitement, sans réservation, pour visiter le rez-de-chaussée. Et il y a quand même deux belles surprises. Et puis après, on pourra évoluer dans la ville et retrouver l'âme de Loti au collège, au temple et dans d'autres lieux qui, notamment par exemple, l'hôtel de la Marine, où il a pu être aide de camp, il a pu aller au temple avec ses parents, il a pu être collégien et également théâtre de la Coupe d'Or. On surfe sur l'actualité. Effectivement, et celle de la réouverture de la maison. Mais je crois que c'est un beau cadeau qu'on fait aux gens de permettre sans réservation, alors qu'on sait qu'on a quand même pas mal de succès et que les réservations sont bien complètes jusqu'au mois de décembre. Donc là, toutes les quarts d'heure, il y aura un départ de visite, toujours des groupes de 10. Hein, là, on est obligé pour la sécurité. Mais voilà, sans réservation, les gens vont se présenter et ils pourront visiter avec un guide, hein, conférencier, le rez-de-chaussée, donc la salle chinoise, la pagode japonaise et bien sûr le jardin qui sont des espaces nouveaux.
Un programme à retrouver sur le site internet de la ville de Rochefort.
Demoiselle, l'invité du journal.
Et on parle ensemble avec nos invités des 50 ans de l'ARCEF, association qui s'occupe du sauvegarde et de la promotion du patrimoine en Pierre Rochefortais. Avec vous, Marie-Pierre Labregère, vous êtes la présidente. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et Hervé Valérian Bessac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes administrateur de l'ARCEF. Rappelez-nous déjà ce qu'est l'ARCEF et comment est née cette institution à Rochefort.
Alors l'ARCEF est une association donc de sauvegarde du patrimoine. Elle est née dans les années 1975 pour distribuer des subventions dans le cadre de du contrat de ville moyenne.
Et au fil de ces 50 ans, il s'en est passé des choses. On a eu plusieurs phases hein, pour l'ARCEF.
Oui, on pourrait dire qu'on a eu autant de présidents que d'incarnations du patrimoine.
Donc, racontez-nous.
Il y a eu cette phase financière des 5 premières années, grosso modo, qui correspondait à l'aide donnée aux habitants pour rénover la vieille pierre. C'était le contrat de Jean Morin, le premier maire de l'époque, qui pensait qu'en rénovant la ville, on ferait revenir des services publics et donc on ferait revenir des habitants. Il pariait beaucoup sur le tourisme et le thermalisme. Et l'ARCEF a été une association financière. Et puis, au bout de 5 ans, le contrat étant épuisé en termes de subventions, la main est passée à Mme Mativa, présidente de l'association, qui découvre que les adhérents ont une connaissance du patrimoine tout à fait exceptionnelle. Elle dit « il faut en profiter ». Elle informe M. Fro, alors qui avait pris la succession de Jean Morin, et il décide de donner à l'ARCEF cette dimension patrimoniale pour accompagner la connaissance et la mise en valeur du patrimoine rochefortais, notamment du petit patrimoine. Alors évidemment, l'opération la plus spectaculaire, ce sera les Puits Fontaines, sous l'égide de Mme
Mativa.
La plus emblématique, puisqu'on va sauver 12 des 34 Puits Fontaines de la ville, et réexpliquer ainsi l'histoire de l'eau et de la conquête de l'eau potable dans une ville qui est entourée d'eau, mais qui manque d'eau potable pour les habitants. À la suite de ces travaux-là, l'association s'essouffle un peu parce que, évidemment, ça a mobilisé beaucoup de monde et on va revenir à des fondamentaux de connaissances universitaires avec l'ère de Alain Durand, nouveau président, qui, à partir des années 85-90, va faire des recherches très pointues qui donneront à l'association son côté société savante. Il va le faire en partenariat avec la Société de géographie de Rochefort, évidemment, qui a déjà ce label.
Et après, on met la main à la truelle, vous me disiez.
Voilà, alors après, c'est l'époque des bâtisseurs, parce que les travaux universitaires, ça épuise un peu les adhérents, donc ça n'intéresse qu'une petite élite. Et la nouvelle présidente, Marie Lefebvre, très proche de la municipalité alors, va mobiliser les habitants pour reprendre la truelle et le marteau, pour aller rénover les vieilles pierres. Alors on va sauver les remparts, on va reconstruire des remparts, on va sauver les châteaux d'eau de Rochefort et de la Coudre, qui date de 1750, puis tout un tas de petits ouvrages emblématiques, les portes de la caserne Charente notamment, etc.
Les tombes aussi.
Alors bien entendu, une grosse opération va naître au cimetière pour à la fois sauver les édifices typiques des périodes du 19e, mais aussi pour mettre en valeur les personnages qui y ont pu y être enterrés.
Petite phase un peu plus compliquée dans les années 2000.
Alors c'est l'ère des ruptures, on change de municipalité, donc l'ARCEF n'est plus tout à fait la bienvenue. Et puis surtout, la ville s'est dotée de tout un tas de fonctionnaires très compétents, d'experts en matière de patrimoine et d'urbanisme. Alors là où l'ARCEF était à pied d'œuvre au départ, était l'initiative, aujourd'hui elle n'a qu'un rôle secondaire. Et donc ça crée des tensions et qui vont se révéler notamment avec le projet de réaménagement et de sauvetage du quai aux vivres, où là, les adhérents, par la presse interposée, vont se livrer à une bataille entre conservateurs et modernistes. Et finalement, c'est les modernistes qui l'emportent avec la réutilisation du patrimoine dans des usages modernes pour permettre son financement et sa réhabilitation.
Et ensuite, dans les années 2015, on va dire, c'est la phase de réveil.
Alors, on a traversé, à partir de 2000, sous la présidence de M. Nompin, une période très troublée, notamment de tensions avec les services de la ville très fort. Mais M. Nompin va avoir l'intelligence de proposer des travaux de type universitaire, de conférences sur notamment les faubourgs. Donc il élargit un petit peu le débat pour sortir du piège. Et à la suite de M. Nompin, M. Milour va pouvoir travailler sur le temps des diplomates. Et il va pacifier les relations avec la ville, moderniser la communication de l'ARCEF, proposer de nouvelles publications qui vont intéresser un grand public.
Parlons maintenant donc de ce demi-siècle et puis de ce qui va se passer ce week-end. Pour les Journées du patrimoine, vous avez proposé un quiz.
Oui, parce qu'en fait, l'ARCEF donc a toujours comme objet de sensibiliser les habitants de la ville à l'intérêt et à la beauté de ce patrimoine. Et pour le découvrir, on propose en effet un quiz qui, en 24 questions, amène à revoir l'histoire de Rochefort, l'histoire de ses monuments. Et donc, ce quiz a été distribué au Forum des associations le 6 septembre, mais il était actuellement téléchargeable sur notre site et les résultats seront proclamés samedi au Palais des Congrès où on aura le fin mot de l'histoire avec une correction où on pourra comprendre à la fois les mauvaises réponses et les bonnes réponses.
Un quiz passionnant. Parlez-nous maintenant de l'avenir hein, parce qu'il y a des dossiers importants.
Oui, alors on a plusieurs dossiers actuellement. Dans le prolongement de ce qui s'est fait dans les années 2000-2010, nous allons mettre en place des plaques commémoratives dans le cimetière civil de Rochefort afin de valoriser un certain nombre de personnages du 19e, des médecins, des édiles, des botanistes qui ont fait que la ville de Rochefort a pu participer à l'amélioration de la santé des habitants et du peuple français en général. Nous allons également travailler sur l'exposition de 1883, qui est une exposition qui a été assez extraordinaire, puisqu'elle avait à la fois un volet industriel, agricole, artistique, cette exposition a donné lieu à la création du Square Para, qui à l'époque était avec des jets d'eau, des illuminations, et cette exposition a eu 40 000 visiteurs, ce qui n'est pas rien. En revanche, nous sommes à la recherche d'iconographie, et si certains de vos auditeurs disposent dans leur grenier d'affiches ou de photos, Elles sont les bienvenues parce que pour le moment, nous sommes un peu à la recherche de cette iconographie pour présenter cette exposition.
L'appel est lancé. Si on souhaite en savoir plus sur l'ARCEF, rendez-vous ce samedi au Palais des Congrès, c'est ça ?
Voilà, dès vendredi, nous sommes à la salle Pierre Loti au Palais des Congrès et nous sommes à la disposition des visiteurs pour leur parler de l'ARCEF et du patrimoine Rocheforté.
Merci à vous deux. On passe maintenant aux nouvelles du ciel.
Demoiselle, la météo.
Ça fait plaisir, l'été revient.
Ça y est, et oui, enfin, il se prolonge même cet été, puisque, eh bien, nous allons avoir du beau temps pour aujourd'hui, même de la chaleur. On va relever jusqu'à 28 degrés. Alors, si vous êtes du côté de Bourg-Franc, Étré et le Château d'Oléron, vous aurez 25. Si vous nous écoutez du côté de Saint-Hippolyte ou encore Échillé en Pays Rocheforté, vous aurez 26. Au Mat-la-Palmière, 27 et donc jusqu'à 28 degrés attendus du côté de Saint-Savinien, au plan d'eau de Saint-Jean-d'Angély et à Courcoury. Et pour les prochains jours, eh bien, on prend les mêmes et on recommence avec du soleil et un thermomètre qui va continuer de grimper avec notamment, écoutez bien, 35 degrés attendus pour le sud du département. Ça sera pour vendredi.
L'élégance, c'est d'abord une question d'harmonie. Alors pour mes fenêtres, mes stores et mes volets, j'ai choisi Storiste de France. Comme tout est fabriqué sur mesure et en France, je suis sûre du résultat et de la qualité de pose. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde.
La maison du store, Storiste de France, c'est deux adresses. Chemin du Puy-Vineux à Rochefort, après le rond-point de l'Avion, direction La Rochelle, et 92 avenue de Bel-Air à Saint-Pierre-d'Oléron.
Storiste de France. Fenêtres, stores, volets.
Conditions sur storistedefrance.com.